Mission Vision avec Alain Renaud.
Bonjour et bienvenue à ce 13e et avant-dernier épisode de la saison 2023-24 de Mission Vision, réalisé toujours en partenariat avec le RAM, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Il reste donc un épisode de Mission Vision avant la pause estivale et notre retour le 6 septembre 2024, j'imagine aux mêmes horaires, c'est-à-dire le vendredi à midi et 4 heures, si je ne me trompe pas, et le samedi à une autre heure en rediffusion. Sinon, vous pouvez toujours écouter notre émission sur le site de Canal M. Le temps file et nous sommes déjà à penser à de nouvelles aventures en accessibilité à vous présenter à l'automne 2024. À ce compte, si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez aborder, qu'on aborde, n'hésitez pas à communiquer avec nous en visitant la page de Mission Vision sur le site de Canal M. Aujourd'hui, je reçois deux invités qui seront en ligne, qui viendront nous entretenir de déplacements sécuritaires et aussi de cinéma accessible. Donc, Yvon Provencher du RAM et Miguel Sorteau du FICAM, le Festival international de cinéma adapté de Montréal. La campagne d'adhésion au RAM, sous le thème « Ensemble, on y voit », lancée le 1er juin dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, suit son cours durant tout le mois de juin. Donc, adhérer au RAM, c'est contribuer à bâtir une société universellement accessible et inclusive, où les personnes ayant une limitation visuelle pourront s'accomplir et s'engager activement. Le RAM se veut être un pôle d'influence en accessibilité et universelle pour les personnes aveugles et malvoyantes. Dans la région de Montréal, c'est-à-dire Montréal métropolitain, donc la rive sud, Longueuil et Laval. Dans le précédent épisode de Mission Vision du 31 mai, j'ai reçu Sandrine Bastarache, qui est conseillère en affaires publiques, au RAM, pour nous entretenir des actions du RAM dans le domaine de l'accès à l'information et plus précisément d'accessibilité numérique. Aujourd'hui, je vais recevoir Yvon Provencher, agent de mobilisation et de défense de droits, pour nous entretenir, entre autres, de déplacements sécuritaires. Je m'entretiendrai ensuite dans notre dernière demi-heure avec Miguel Sorteau, qui est directeur du FICAM, ce festival qui en sera à sa deuxième édition et qui est en pleine préparation. Il fait appel aux différentes communautés auxquelles s'adressent des projections et il sera intéressant de vous présenter le travail et surtout les difficultés, je dirais, à surmonter pour un tout jeune festival qui fait la promotion de l'inclusion et de l'accessibilité en ces temps très difficiles pour la culture, si on peut dire. Parlant d'art et de culture, un des dossiers prioritaires du RAM qui me tient particulièrement à cœur, car j'en suis un des responsables, est justement le dossier culture accessible. Alors, je tourne ma page comme un vrai professionnel. Nous avons d'ailleurs abordé le sujet à maintes reprises là, à ce micro, comme vous aurez pu le constater si vous êtes un ou une fidèle auditrice de l'émission Mission Vision. il y a un véritable mouvement, puis je dirais même un intérêt, un engouement pour l'accessibilité et l'inclusion dans les arts et la culture dans ces dernières années au Québec, à Montréal, dans la grande région de Montréal, à Québec et dans différentes autres régions du Québec. On parle d'audiodescription, de visite tactile, que ce soit dans les arts de la scène ou au musée ou en galerie. L'offre se fait de plus en plus et nombreuse. L'ORAM accompagne et collabore avec de nombreux partenaires à la promotion de toutes ces activités et événements permettant à la communauté de vivre des moments magiques, que ce soit en salle de spectacle pour du théâtre ou de la danse, ou du théâtre, oui, ou de la danse, et ou des visites et ateliers dans certains musées, un en particulier dont je vous parlerai tout de suite, ou dans une galerie. Donc, appuyer le RAM, c'est donc appuyer aussi toutes ces initiatives pour la communauté des personnes malvoyantes et non-voyantes. L'automne dernier, le RAM a mis en ligne son calendrier culture accessible permettant de, en un clic, de survoler toutes les offres de spectacles et d'expositions disponibles, accessibles pour la communauté des personnes aveugles et malvoyantes. Les prochaines programmations des différents théâtres de Montréal et de Québec et compagnies de spectacles seront mises en ligne dans les prochaines semaines. Comme vous avez pu le constater à différentes autres émissions, la semaine dernière, à notre dernier épisode, nous avons reçu le Centre Siegel qui présentait ses 4 comédies musicales qui seront présentées avec duo, description et visite tactile dans la saison 2024-2025 et plutôt aussi dans la saison. Il y a peu de temps, j'ai reçu Erika Malo du Rideau Vert qui est venue nous présenter donc la programmation du Rideau Vert. D'autres vont suivre et puis au fur et à mesure que nous les recevrons, elles seront donc mises en ligne dans notre calendrier que vous pourrez trouver à la section communauté sur le site du RAM. Donc l'onglet, vous allez à l'onglet communauté et vous trouverez donc le calendrier. C'est sur le site du RAM, oraamm.org. Parmi les autres actions du comité culture accessible du RAM, il est important de mentionner un partenariat avec le musée d'art contemporain de Montréal. Pour une deuxième année consécutive, une collaboration a permis de rendre accessible la grande exposition estivale du musée. Après l'exposition de Lily Renaud-Devoir en 2023, qui était une première collaboration, une première expérience aussi pour le musée, avec une expo accessible, avec audio-description, c'est au tour de l'exposition collective « Femmes, volcans, forêts, torrents » d'être rendue accessible à la communauté avec une carte tactile du lieu et de l'audio-description. Donc, un parcours en audio-description du musée. Je m'en voudrais de ne pas vous mentionner que le MAC, le Musée d'art contemporain, a présenté une demande de subvention pour un projet d'accessibilité de ses collections et de futures expositions qui a été acceptée, c'est-à-dire une demande qui a été demandée au Conseil des arts du Canada. Un projet sur plusieurs années auquel participera le RAM comme important collaborateur des aventures à suivre donc dans de futurs épisodes de Mission Vision. Alors voilà donc à quoi s'active entre autres le RAM au niveau de la culture accessible. On prend une petite pause et je vous reviens en compagnie de mon prochain invité, Yvon Provencher. Je reçois maintenant Yvon Provencher, agent de mobilisation et de défense des droits, pour présenter un autre aspect du travail et des actions du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, dans le domaine, celui-ci, des déplacements sécuritaires. Enjeu, s'il en est un, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Bonjour Yvon.
Bonjour Alain, je confirme que tu es un vrai professionnel.
Ah merci, c'est trop gentil. Un professionnel qui boite quelque peu de la patte devant le micro à certains moments, mais c'est trop gentil. Si un vrai professionnel ici des déplacements sécuritaires, il s'appelle Yvon Provencher et il travaille au RAM depuis combien d'années, Yvon? Environ.
Plusieurs années.
Je pense que toi et moi, on est dans les aînés du RAM. Moi, avec même pas 2 ans d'expérience, mais toi, avec, je dirais, plus d'une vingtaine. Merci de participer à l'émission aujourd'hui. Comme je le disais un peu plus tôt, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le RAM lance une première campagne d'adhésion au regroupement qui peut-être reviendra dans les prochaines années dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et puis, j'en ai profité la semaine passée pour rencontrer une autre de nos collègues, Sandrine, qui nous a parlé d'accès à l'information, un des 3 comités du RAM avec le comité culture et ton comité s'appelle le comité de déplacement sécuritaire, si je ne m'abuse.
C'est exact.
Alors, est-ce qu'on irait avec peut-être un petit survol, peut-être soit de la dernière année, avec certaines réalisations, et puis aussi parler de tout ce qui s'en vient aussi, là, ce qui est en cours en ce moment dans tes dossiers, et puis peut-être qu'on pourrait terminer avec quelques projets à venir, ou enfin, on se comprend.
Et puis, on se parlera du comité un peu plus à la fin de notre capsule.
Parfait.
Oui, alors justement pour profiter de cette offre culturelle accessible qui s'accroît, il faut être capable de se rendre.
Hein?
Il faut être capable d'aller profiter, à moins que tout soit fait en ligne, mais c'est pas toujours le cas.
Non.
Donc, naturellement, si on n'est pas capable de se rendre quelque part, on ne peut pas profiter de toute cette belle offre culturelle qui se présente à nous. Notamment, les déplacements, c'est essentiel, il faut être capable de sortir de chez soi puis aller là où on veut aller. Mm-hmm. Ça a été une année, je dirais, un peu plus frustrante cette année parce que et c'est pas faute d'avoir essayé d'obtenir des résultats, mais on est obligé de constater cette année que nos interlocuteurs sans aller jusqu'à dire qu'ils faisaient la sourde oreille, on peut quand même dire qu'ils se sont montrés moins réceptifs qu'on aurait souhaité. Alors, donc c'est un thème un petit peu qui va revenir durant mon intervention, mais malheureusement, c'est ça des fois la réalité de la défense des droits, c'est que ça n'avance pas aussi vite qu'on aurait souhaité. Donc on va commencer, si tu le veux bien, par parler du REM.
D'accord.
Pourquoi parler du REM? Parce que le REM, c'est quand même un projet de transport important dans la région du Montréal métropolitain, pas tant sur l'île de Montréal, mais...
Sur les connexions, finalement, avec nos voisins, dans le fond, nos voisins de Laval.
Exactement. Et à l'heure actuelle, c'est beaucoup avec la Rive-Sud, éventuellement, ça va aussi s'étendre vers le nord. Donc, c'est pour ça qu'on a mis quand même pas mal d'énergie dans ce projet-là depuis les dernières années. Et cette année, on a frappé un peu un mur avec le REM.
OK.
Les installations du style REM... C'est des installations qui sont normées. Hein. On fait pas ça n'importe comment, on fabrique pas ça n'importe comment. Il y a des règles, il y a des normes à respecter.
Mm-hmm.
Et il y a des normes qui touchent l'accessibilité des installations.
OK.
Et ça fait plusieurs années que... D'abord, dire que le RAM n'est pas quelqu'un, n'est pas une organisation qui veut une adhésion stricte aux normes. Habituellement, les normes sont pas suffisantes. C'est un seuil minimal de ce qu'on souhaite en accessibilité, mais habituellement, faut aller plus loin que les normes.
Okay.
Et une des normes qui encadre l'aménagement d'installations comme le REM, c'est une très, très grosse norme fédérale. Donc, c'est pas de responsabilité provinciale, c'est de responsabilité fédérale et ça touche plein d'aspects des installations, comme par exemple l'aménagement des escaliers, l'aménagement des ascenseurs, l'aménagement des portes. Donc tout ça est normé et cette norme-là est mise à jour à chaque 10 ans.
OK.
Donc, la dernière version de cette norme-là remonte à 2023. Quand le REM a commencé à être construit, CDPQ Infra, qui est l'organisme responsable de ce projet-là, c'est la caisse de dépôt là, qui est responsable de ce projet-là, mais leur infrastructure aménagement, c'est CDPQ Infra. Quand ils ont fait les appels d'offres pour donner l'ouvrage pour construire le REM, la version de la norme qui était en vigueur à cette époque-là, c'était la version de 2013.
Donc, maintenant 10 ans, comme tu disais.
Ça fait 10 ans que cette norme-là, la version datait de 2013. Donc, ce qui a été demandé pour l'accessibilité pour cet appel d'offres-là, c'était la version 2013 qui était en vigueur. Mais depuis ce temps-là, ça a évolué et il y a eu une mise aux normes en 2023. Donc, on a questionné le REM en disant, on vous a identifié des enjeux d'accessibilité. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces enjeux-là? Dans la grande majorité des cas, la réponse qui est revenue, c'est ce qu'on a fait est conforme à la version de la norme en 2013. Et donc, même pour les nouvelles installations qui vont être construites, là, parce que le REM n'est pas tout à fait complété, même pour les nouvelles installations, ça va être encore la version 2013, parce que c'est celle-là qui était en vigueur. Donc, ça veut dire que ce projet-là a déjà des lacunes connues, documentées, mais qui vont se reproduire dans le reste du projet, parce qu'au REM, on dit, on peut pas demander plus que ça. Donc, on va garder les exigences de la norme en version 2013. C'est vraiment très regrettable, là, parce qu'il y a quand même des enjeux, dans certains cas, de sécurité à la limite, là. Puis, ça sera pas pris en compte parce que les gens du REM nous disent, désolé, mais c'était 2013 qui était en vigueur, ça va être 2013 tout le long.
C'est quand même incroyable comme réponse ou comme réaction sur un projet aussi.
Parce que c'est un projet important et c'est des lacunes connues, là. C'est pas quelque chose on est arrivé avec ça cette année en disant en passant, on va vous dire plein d'affaires. C'est des choses qui étaient connues et malheureusement, les correctifs risquent de ne pas être apportés.
Mm-hmm.
C'est bien regrettable, cette situation-là.
En tout cas, on sait qu'on a aussi quand même pas mal de problèmes de communication, je pense, auprès du public avec le REM. Puis il y a beaucoup de failles. Et puis, il me semble que pour leur image, c'est pas tout à fait. Je pense qu'on peut penser de mieux pour un si grand projet qui a des impacts là, énormes là, au niveau des déplacements là, à plein de niveaux. Et puis ça fait quelque part pas très sérieux tant qu'à moi.
On nous présentait ça comme un projet structurant qui va inspirer et tout. Désolé, mais pour les personnes aveugles et malvoyantes, notamment, là, il y a d'autres enjeux pour d'autres catégories d'usagers. C'est moins réjouissant que ce qu'on voudrait bien nous faire croire.
J'allais dire le terme structurant aussi, mais je voulais pas le dire.
C'est
tellement fourre-tout, puis c'est n'importe quoi. En tout cas, mais bon, c'est bien que tu l'aies dit, parce que c'est quand même leur discours, c'est quand même la langue de ce genre de projet-là. Et donc, ce que tu m'avais dit, c'est qu'il y a eu quand même, vous avez fait des visites. Comment ça se passe, justement, là, dans un projet qui est si à long terme, là, qui est justement en réalisation sur plusieurs années? Comment ça s'est passé? Je pense peut-être juste nous donner un petit peu quelques exemples d'actions qui ont été... pas d'action, mais je veux dire de collaboration. Comment un regroupement comme le REM collabore avec le REM dans un projet sur plusieurs années comme ça? Juste peut-être nous donner quelques exemples là, pour les auditeurs.
Dans le cas d'un projet comme celui-là, ce qui aurait été l'idéal, c'est de déjà pouvoir prendre connaissance des plans, on parle même pas d'avoir versé du ciment puis commencé à construire, là, juste de pouvoir regarder les plans, ça aurait permis d'identifier des enjeux. C'est ce qu'on avait fait il y a très très longtemps. Quand le métro à Laval a été construit, on avait à l'époque une super belle collaboration avec... à l'époque, ça s'appelait l'Agence métropolitaine de transport. Et ils nous avaient présenté les plans des trois stations à Laval et on avait déjà pu identifier des choses et ça a permis de corriger plein de problèmes. Cette fois-ci, ça s'est limité, puis je le dis comme ça, non pas parce que c'était pas inutile, mais ça s'est limité quand même à être capable d'aller faire des visites terrain une fois que c'était déjà construit.
OK.
Donc, il y a des gens, une collègue là qui s'est déplacée, qui est allée sur place, qui est allée expérimenter, qui est allée constater les aménagements et qui avait identifié des enjeux. Ça avait été appuyé, ça, par aussi une évaluation faite par des spécialistes en orientation et mobilité de l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui avait confirmé les mêmes enjeux que notre collègue avait identifié, plus d'autres aspects là qu'elle ne pouvait pas vérifier, mais des aspects, entre autres, pour les personnes qui ont une basse vision. Alors, ça s'est limité à des visites terrain de deux installations, là, deux stations à Brossard. On n'avait même pas pu visiter les aménagements de la gare centrale à Montréal, puis je te parle même pas des autres installations à venir, parce que celles-là, on les a jamais vues.
C'est ça, OK.
Mais on sait que, bon, c'est construit sur les mêmes bases que ce qu'on a déjà vu, donc on sait que ça va être problématique.
OK.
Mais, alors voilà, c'était des visites sur place, terrain, vraiment sur les lieux même, mais une fois que c'était construit.
Donc, on imagine qu'on n'aura pas les résultats qu'on a eu avec justement la ligne du métro vers Laval.
On est loin de ça, là.
Mais je comprends pas comment il y a 15 ou 20 ans, on a pu avoir ce type de collaboration avec Louis Braille, avec le RAM, puis qu'on n'a pas été capable de faire la même chose 15, 20 ans plus tard dans un projet structurant.
Le projet du REM est un projet qui a frustré pas mal de monde depuis le début. C'était extrêmement difficile de communiquer avec l'équipe responsable du projet de CDPQ Infra.
Okay.
Il n'y avait pas vraiment d'ouverture à nous rencontrer au début. On nous disait, on a les normes, on va respecter les normes, on n'a pas besoin de vous rencontrer. À force de mettre de la pression, puis c'est pas juste nous, là, c'est l'ensemble de nos alliés du milieu associatif des personnes en situation de handicap, on a fini par obtenir des rencontres avec un représentant du REM qui, lui, transmettait nos préoccupations aux autres équipes. Ça a été extrêmement difficile.
Okay.
Tout ce projet-là a été vraiment très, très difficile.
Et puis c'est un projet qui n'est pas terminé, alors bonjour pour la suite, bonjour les résultats pour la suite.
Oui, mais on les connaît pas mal les résultats, on le sait pas mal à quoi ça va ressembler. Là.
OK. Bon, ben écoute, si on passait peut-être à un autre dossier, je ne sais pas si celui-là va être plus positif.
Alors, on a essayé, les gens qui utilisent des feux sonores savent que souvent les feux sonores sont défectueux. Et que ça peut être long avant que les feux sonores soient réparés. Donc, on a fait une tentative l'été dernier de créer un groupe de personnes qui, dans leur déplacement au quotidien, là, s'ils constataient que des feux sonores étaient défectueux, on les invitait à contacter le 311 de la ville de Montréal et on avait préparé un petit guide pour les aider à identifier quelles informations qui étaient importantes de donner pour signaler les signalements des défectuosités. Et on voulait tester pour voir si ça pouvait améliorer le processus. À Montréal, les délais de réparation des feux sonores défectueux, ça peut être très long. Là.
Okay.
Ça peut se compter en mois.
Mon Dieu.
On passe de quelques semaines à quelques mois. Là. On a déjà vu ça là, dans le pire des cas. Alors, c'est un projet qui où il y a eu trop peu de participation des gens. On ne s'explique pas vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça. On le sait qu'il y a des gens qui se déplacent dans la ville, mais il n'y a pas eu suffisamment de personnes qui ont participé au projet. Donc, si jamais on le refait, ben ça va vraiment être important que les gens s'y impliquent. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, puis vous souhaitez quand même qu'on puisse vous aiguiller un peu sur qu'est-ce qu'il faut donner à la ville comme information, c'est pas perdu, là. On l'a développé, ce guide-là, donc on pourra toujours vous transmettre les éléments. Mais c'est vraiment important que quand vous constatez que les feux sonores sont défectueux, pas penser que la ville va s'en rendre compte c'est pas comme ça que ça fonctionne. La ville s'est pas donné les moyens de vérifier l'état de fonctionnement de ces feux sonores. Ça va peut-être venir, mais pour le moment, c'est pas le cas.
Okay.
Donc, quand vous constatez qu'un feu sonore ne fonctionne pas, appelez à votre 311 et signalez-le.
Parfait.
C'est à peu près la seule manière que la ville soit au courant qu'il y a un problème.
OK. Écoute, Yvon, il nous reste même moins que 3 minutes. Alors, on va y aller avec un petit sprint avec
notre dossier. On va parler des sorties médiatiques qu'on a fait cette année sur la question des feux sonores.
Parfait.
Il y a eu un article qui avait été publié, entre autres, dans un journal où une personne aveugle racontait qu'elle avait failli se faire frapper par un autobus.
Mm-hmm.
Parce qu'elle a traversé une intersection où il n'y a pas de feu sonore et où il devrait en avoir un.
Okay.
Donc, on a profité de cette occasion-là pour faire des sorties médiatiques pour demander aux villes d'être plus actives dans l'installation et l'entretien des feux sonores. On vient justement d'en parler de l'entretien.
Ouais.
Il faut que les villes s'améliorent là-dessus, mais aussi l'installation, parce qu'actuellement, l'installation des feux sonores là, dans les villes, c'est essentiellement si les gens font des demandes d'installation, ben, peut-être qu'il va en avoir. Mais les villes pourraient être plus proactives que ça. Et elles, pour le moment, elles remettent ça sur les épaules des usagers. Donc, on pense que les villes devraient en faire plus.
Écoute, il nous reste 2 minutes.
Je vais terminer avec les pistes cyclables.
C'est ce que j'allais te dire, justement, du feu sonore aux pistes cyclables, on a un lien à faire.
Oui, parce que dans certains cas, c'est important, il va falloir qu'on aménage des feux sonores pour améliorer la sécurité des intersections.
Okay.
Donc, le dossier des pistes cyclables, on va continuer de s'occuper de ça cette année. On va cibler la rue Rachel comme une piste cyclable et on va regarder où est-ce qu'il faudrait mettre des feux sonores.
Okay.
Et je vous parle de ça parce que ça se passe, ça vient ça du comité des déplacements sécuritaires qui a dit cette année, on veut être très concret dans les actions qu'on veut mener. Donc, c'est le comité qui a dit, on veut faire l'évaluation de la piste cyclable sur la rue Rachel. Donc, vous voyez, quand on vous parle de vous impliquer sur les comités, là, c'est de cette manière-là que ça peut être très, très, très concret.
Parfait, oui. Hein?
C'est pas juste, on va s'asseoir et on va jaser de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. On peut faire des choses très, très concrètes. Donc, si vous avez envie, si vous vous sentez interpellé par la question des déplacements sécuritaires, si vous rencontrez des enjeux dans vos déplacements, bien, une des façons de contribuer concrètement à améliorer les choses, c'est de vous impliquer au comité. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux membres du comité. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, communiquez avec moi. Puis, si vous avez d'autres questions sur les déplacements sécuritaires, n'hésitez pas, communiquez avec moi, puis on va pouvoir se jaser.
Parfait. Merci beaucoup, Yvon Provencher-Durham. C'était super clair et super bien amené, tout ça. On aura sans doute l'occasion de se reparler à l'automne prochain à Mission Vision. Je te remercie beaucoup, Yvon.
Merci, Alain.
À la prochaine.
Au revoir.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Alors, vous êtes toujours à l'antenne de Canal M et donc de l'émission Mission Vision. Je suis en ligne avec Miguel Sorto, qui est directeur du FICAM, donc le Festival international du cinéma adapté de Montréal, dont je vous ai glissé un petit mot un peu plus tôt. Alors, bonjour Miguel.
Bonjour Alain.
Et merci d'accepter de venir nous parler du FICAM au micro de Mission Vision. Alors, je crois que le festival est relativement jeune, donc peut-être peu connu encore. Fait que peut-être si tu peux nous le présenter et puis nous parler un petit peu de son historique, puis peut-être aussi de ton parcours pour en arriver à diriger finalement ce nouveau, on peut l'appeler nouveau festival quand même.
Oui, c'est bien dit. Oui, tout à fait nouveau aussi pour moi. Bon, ben Miguel Sorto, moi j'ai commencé dans le cinéma comme réalisateur émergent. Donc, j'ai fait 2 films qui étaient en lien avec des personnes en fauteuil roulant, en sport adapté. Donc, lorsque j'ai fini ces 2 projets-là, bien évidemment, je cherchais à les distribuer. Puis c'est là qu'il y a eu la grande problématique pour laquelle je travaille maintenant.
Okay.
Donc, un manque de salles accessibles pour projeter des films en fauteuil pour les personnes en fauteuil roulant.
OK, encore aujourd'hui, en 2024, là, il y a des cinémas qui ne sont pas accessibles.
Oui, en fin de compte, la plupart des cinémas peuvent accueillir 1, 2 et 3 fauteuils roulants. Non?
Pas plus.
Donc, il y a l'expérience en groupe, elle n'existe pas en okay. réalité. Non. Okay. Donc, c'est pour moi, ça, c'est un impasse parce que moi, j'avais fait des films pour et avec. Donc, mon idée, c'était de projeter ces films-là qui étaient en quelque sorte la promotion ou sortir de l'ombre en sport adapté mm-hmm. qui me semble quelque chose d'unique et très particulier. Qui est faite au Canada et au Québec.
Okay.
C'était ça qui m'a fait en sorte que bon, il a fallu que je trouve comme distributeur aussi indépendant et émergent mm-hmm. des lieux de distribution pour ces films-là. Fait que okay. je allais soumissionner mes projets dans d'autres festivals ailleurs dans le monde.
Okay.
Exemple en France, il y a plusieurs festivals qui sont pour ce public-là, donc on les appelle des festivals adaptés
okay.
Parce qu'ils accueillent des films avec, pour public en fauteuil roulant, mais aussi pour public sourde et pour public aveugle.
Okay, okay.
Donc, la première édition d'EFICAM a eu lieu après la pandémie, quand moi, je me suis retrouvé avec mes films où il n'y avait pas de salle à projeter. Je me suis dit, bon, ben oui, on peut les mettre sur Internet, mais ultimement, moi, ce que je veux, c'est une expérience cinématographique en groupe avec mon film, mais aussi avec d'autres films. On va simuler un festival comme il y a ailleurs dans le monde.
Okay.
Fait que la première proposition de FICAM a eu lieu en 2022 à la Maison de la culture du Plateau Montréal. Et c'était pour les personnes en fauteuil roulant, exclusivement.
Okay.
Donc, c'est la première section parce que je voulais, oui, passer mes deux films, mais dans cette simulation, évidemment, j'avais fait un compte dans les plateformes qui accueillent le cinéma indépendant pour faire des échanges ou des soumissions au festival. Donc, on parlait de Film Freeway, de Homefest.com, que c'est des plateformes autant pour les festivals que pour les cinéastes indépendants.
Okay,
parce qu'ils vont se rencontrer, puis le cinéaste indépendant va soumettre son projet au festival qui t'a à ce public-là.
Okay.
Il y en a pour l'environnement, c'est des festivals qui sont exclusivement à l'environnement, c'est des festivals qui sont exclusivement à la question politique. Il y a le festival vient s'ancrer dans cette particularité du cinéma qui est le cinéma adapté, qui existe ailleurs dans le monde et d'ailleurs qui existe aussi à Toronto, parce
okay.
que c'est un des lieux où moi-même je me suis missionné mes films,
okay.
parce que c'était le seul endroit où, au Canada, où on pouvait voir du cinéma de ce genre-là, que moi
okay.
je l'appelle inclusif, que moi je l'appelle représentatif. Dans l'émission de FICAM, il y a tout cela qui se mêle. Parce que, exemple, à Toronto, les films sont projetés en ligne. Est-ce que FICAM ne priorise pas? Nous,
okay.
on priorise l'expérience en groupe, en salle.
Une sorte.
Donc, le défi de FICAM, c'était aussi trouver ces salles-là
okay.
finalement accessibles.
C'est ça, si je parle pour la communauté des personnes non-voyantes, malvoyantes, on en a parlé juste un peu auparavant avec mon collègue Yvon, qui s'occupe
oui.
d'un comité de déplacement sécuritaire. Les déplacements, c'est une problématique pour les personnes handicapées,
oui.
que ce soit visuelles ou en chaise roulante. Et quand on a une offre, quand on a une offre culturelle, quand on a une offre de sortie, que ce soit loisirs et sport, je pense que tout le monde s'entend que on aime comme tout le monde, je m'inclus là, comme personne malvoyante, on aime sortir, de chez nous.
Ben oui,
et puis
ben
si
ben
on
oui.
nous offre de la culture, si on nous offre du sport, si on nous offre du loisir, on a envie de sortir. Et je pense
ben
que
oui.
c'est important, comme tu disais, par rapport à ton festival, de faire en sorte que c'est des sorties en salle. On veut pas, on passe nos journées devant notre ordinateur. C'est pas une sortie culturelle, c'est pas regarder un film dans son ordinateur chez soi. C'est si on peut justement avoir du déplacement, on peut se déplacer, on peut aller dans des salles accessibles. Donc c'est quand même, je trouve ça quand même assez louable puis important de la part du FICAM de privilégier, comme tu le dis, la possibilité de sortir, que ce soit de véritables sorties.
Puis parce que c'est ça, comme c'est une projection universelle, donc la personne aveugle peut se croiser avec le voyant pour une fois, puis se côtoyer dans cette expérience culturelle cinématographique où ce que on voit aussi, l'idée c'est que mettre à l'écran aussi les personnes non voyantes, pour les cas de le public non voyant, pour les cas de le public sourd, c'est la même situation, donc les mettre à l'écran aussi,
c'est
qu'ils soient le sujet. le public cible, mais aussi s'ils sont les créateurs, si c'est les créateurs qui sont derrière cette œuvre-là, qui est en audio description, mais c'est sûr qu'on va l'accepter dans le festival. Donc c'est l'inclusion dans toutes ces formes, dans la chaîne de production, de projection, et l'ensemble est pensé pour part. Avec ces gens-là inclus dans la projection, qui est une expérience unique d'une histoire pour chacun des catégories.
On pourra parler tantôt, mais j'ai appris auprès de toi qu'il y a tout au niveau du langage des signes de LSQ. On a une production de cinéma au Québec. On a des producteurs et tout, on pourra peut-être en parler un peu tantôt, mais c'est vraiment intéressant. Et puis justement, le festival vient dans cet esprit justement de diffuser, puis de donner des opportunités, puis de donner une vitrine pour quelque chose que moi-même je connaissais pas, mais on pourra en parler. Donc tu me dis en 2022, donc première projet pilote un peu, hein, je pense que tu m'avais dit pour
un projet pilote à la Maison de culture du plateau avec deux séances de 2 heures. Donc une première séance, c'était une rétrospective nationale de ce qui avait été fait ou qu'est-ce qui c'était, et avec la participation. Tout ça s'est fait aussi avec, je dois mettre ça au clair, que ça se fait avec la participation des organismes. Donc lesquels, exemple, je contacte puis je leur demande, voilà, je voulez-vous être partenaire dans cette activité culturelle, je vous offre donc une activité culturelle où ce que vous n'avez pas à payer pour aucun déboursement, c'est dans la Maison de culture, ou presque, parce qu'il y en a quelques-unes qu'il faut débourser un certain pour les billets électroniques, mais c'est symbolique. Et donc, de là un peu de l'accessibilité, ces organismes deviennent un peu accompagnants ou partenaires dans l'histoire de diffuser donc cet événement-là dans leur agenda culturel ou dans l'agenda d'activité pour faire en sorte que leurs membres se présentent aussi dans les séances et qu'on ait de séances pertinentes avec le public et le film. Donc, c'est des belles collaborations qui ont eu lieu depuis le début. Donc, Moelle-Épinière Québec, qui est l'organisme qui représente le plus grand nombre de personnes en fauteuil roulant au Québec.
Ah ouais?
Mais ils sont associés depuis le début parce que pour eux, c'est juste une activité culturelle de plus. Et dans la première, donc dans ce projet pilote, la première édition, eux, ils fêtaient leur 75e anniversaire, donc ils ont eu la chance même de proposer un film et dire, bon, nous, Moelle-Épinière, on aimerait que ce film-là vienne de Suisse et de l'équivalent de Moelle-Épinière Suisse qui soit projeté chez nous ou dans le festival, dans le cadre du festival, parce que ça nous intéresse de le projeter autant à nos membres, mais aussi au public en général, pour qu'on puisse juste approfondir dans un dialogue qu'eux, ils mènent dans leur mission depuis le début. Donc c'est des collaborations que depuis le début en 2022 ont fait des belles salles, bien remplies.
Et puis oui, juste physiquement, c'était à la Maison de la culture Mont-Royal.
Montréal.
C'est ça. Donc je pense que leur salle de spectacle cinéma elle est mobile, je pense que
c'est bien ça. Une des particularités qu'on a découvert, que j'ai découvert avec le festival, c'est que la meilleure façon d'adapter une salle, c'est évidemment la fameuse salle de spectacle qu'on appelle des boîtes noires. Parce qu'elles sont modulaires, on peut enlever des gradins.
C'est ça.
Enlever des gradins, remplacer par des fauteuils, remplacer par des chaises, l'accompagnateur a des fauteuils, et laisser autant d'espace d'un côté et de l'autre pour que le spectacle soit plus universel. Donc, dans les cas des personnes non-voyantes, évidemment, on enlève des chaises, mais on laisse aussi pour les non-voyants, aussi on ajoute la audio description, qui est l'élément qui fait en sorte qu'on a une expérience. La audio description est déjà inclue dans le son, son ambiant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de casque, personne met des casques.
Tout le monde entend l'audio description.
Exact.
Comme donc, ça peut se faire au théâtre aussi. Dernièrement, ça s'est fait. Je suis allé à une représentation où l'audio description était audible pour tout le public.
Exact. Mm. C'est la meilleure formule parce que dans ce... Regardez comment est-ce que c'est beau. Dans cet univers-là, on peut fermer les yeux, nous voyons.
Ah, ouais. Okay.
Puis voir le film, mm-hmm. ou l'imaginer à nos propres images, comme si on était, comme si on serait aveugle. Mm-hmm. Oui, on peut faire ça grâce à l'audiodescription. Okay. On peut rentrer dans cette dynamique-là.
Okay. Donc
volontairement. Non?
Okay.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire avec le cinéma sourd aussi. Okay. Avec une grande différence.
Ah ouais?
C'est que le cinéma sourd, évidemment, c'est sourd, donc il y a du cinéma où il n'y en a pas de son.
Uh-huh.
Donc là, on se retrouve avec une langue en signe LSQ.
D'accord.
Oui, sous-titré en français, donc oui, on peut tous comprendre c'est quoi le dialogue, mm-hmm. mais il n'y a pas de son.
C'est ça. Donc là on a un problème pour les personnes aveugles.
Mais... Il y a un problème pour les personnes aveugles, ouais. mais il y a aussi une immersion pour les personnes voyantes.
C'est
parce que là, ils se retrouvent tout d'un coup avec une habitude d'avoir de son. Le cinéma, le son, c'est...
Okay.
il n'y en a pas, ça n'existe pas dans la logique même les conseils des arts. Ça, on n'est pas rendu là.
Okay. Écoute,
on n'est pas rendu, malheureusement, on ne peut pas imaginer un film encore subventionné avec des fonds publics.
Ah oui?
Ça c'est pas fait.
Okay.
Une parole qu'on organise, c'est une des dialogues qu'on essaye d'avoir, comme avec déjà la audiodescription déjà inclue dans le processus créatif,
mm-hmm.
pour que ce film-là, ben, il aille à la clientèle, mm-hmm. Qu'il faut. Donc tous, et tous inclus, donc les non-voyants, puis ça devrait être déjà pour moi dans la chaîne de production, ça se fait ailleurs,
mm-hmm.
en France,
États-Unis.
Régulièrement, aux États-Unis, ça se fait déjà. Donc on est rendu là,
okay.
on est juste un peu en retard,
mm-hmm.
mais je suis conscient qu'on peut faire.
L'important, c'est de rattraper nos records. Nos retards, c'est ça, en même temps, le FICAM, c'est un peu un outil justement pour faire. Avancer les choses, c'est bien de dire qu'on fait une offre culturelle, mm-hmm. artistique, tout ça, mais en même temps on fait bouger les choses, on prend une place, mm-hmm. et puis ça permet justement d'un véhicule de promotion de l'inclusion et de l'accessibilité. Donc on va bientôt prendre une petite pause, on a simplement parlé de 2022, mais on peut parler Exact. Rapidement de l'édition de l'année dernière et au retour, et aussi nous parler de ce que le travail qui se fait en ce moment pour le mois d'octobre. Je pense qu'une journée de projection au mois d'août, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça.
Et puis en octobre, donc on prend une petite pause et puis on continue Exact. Sur... l'année dernière, la deuxième édition ou la première édition du FICAM et la prochaine à venir avec Miguel Sorto. Merci Miguel, à tout de suite. Toujours en compagnie de Miguel Sorto, directeur du Festival international du cinéma adapté de Montréal. On vous a parlé à l'instant, juste auparavant, d'un peu l'historique du festival, d'une première édition année pilote en 2022. On pourrait peut-être parler un peu de comment s'est passée la première édition officielle l'année dernière en mm-hmm. 2023, et puis continuer aussi sur le projet en cours en ce moment, le travail qui se fait en cours pour mm-hmm. L'édition de 2024.
Perfect.
Alors, c'est donc, ça. Peut-être me raconter comment s'est passée justement cette première édition officielle, dans combien de lieux, combien de projections, quelles ont été les réactions du public, la participation, tout ça.
Oui, bon, ben, écoute, pour venir donc à la première grande édition du FICAM en 2023. Donc, je l'avais passé. Mais là, le nom du jeune festival, je pense que tu faisais allusion tantôt, ça s'est encore mieux passé parce que finalement, bon, on a ajouté des nouveaux pôles à cette dimension. Mais on est devenu officiellement un organisme à but lucratif, un peu comme tout le festival,
okay.
qui veut faire une compétition en cinéma, oui, mais bon, on a la particularité de qu'on est un peu aussi d'un cheval de l'avocatie des droits et
okay.
d'inclusion. Donc, ça fait en sorte que ça fait une petite belle boule auprès de la ville, surtout, parce
okay.
que la Maison de la Culture, c'est le lieu qui nous accueille. Donc, la Maison de la Culture a servi aussi pour que les autres organismes, mais aussi les autres maisons s'adhèrent. Donc, on a eu un appel au début de 2020, fin 2022, mm-hmm. 2023, d'un organisme qui s'appelle Alpha, qui est à l'est de Montréal. Alpha,
okay.
oui.
Qui,
Et puis là, c'est Association pour loisirs pour personnes handicapées de l'est de Montréal,
okay.
si je me trompe.
Okay, okay.
Puis c'est pour, surtout, je pense, les membres sont majoritairement en fauteuil roulant,
mm-hmm.
mais c'est ce qu'ils voulaient, avoir une expérience auprès de chez eux, dans leur quartier,
okay.
que je trouvais vraiment formidable. Donc, eux, ils ont tout de suite dit, ben nous, on est dans l'extrême-est, Pointe-aux-Trembles, vous venez par ici, je dis, ben, Maison de la Culture, Pointe-aux-Trembles, laquelle vous voulez. Puis, un peu en complot, toutes les deux, on a fait une demande chacun de leur bord en disant un peu la même chose. Mais nous, on a le FICAM qui aimerait qu'ils viennent, puis le FICAM, on aimerait aller desservir l'Alpha.
Okay.
Puis la demande a juste fait comme oui, bien sûr. On est ouvert à ce genre de clientèle, à ce genre d'expérience. C'est déjà, il y a du vécu déjà au plateau Montréal. Et donc, ils se sont adhérés.
Okay.
Une autre belle beau succès de 2022, la première édition, c'est que l'INIS, l'Institut national de l'image et du son,
mm-hmm.
est venu aussi s'adhérer dans cette inclusion, parce que eux, il y a une petite salle pour les étudiants et pour les projets étudiants qui sortent de l'INIS, qui est, on peut dire, accessible. Parce que les fauteuils peuvent rentrer par les côtés.
Okay.
Et c'est dans une boîte noire, donc on peut placer des chaises comme on veut, puis il y a un projecteur, okay. un bon système de son, puis tout ce qui va avec cette projection-là.
Okay.
Donc eux, ils nous ont accueillis, puis là, c'est là justement qu'il y a eu la projection pour la clientèle non-voyante.
Okay.
C'était, je dirais, une super de belle partenariat, parce que oui, on n'a pas eu une salle pleine qu'on mm-hmm. aurait voulu. On avait, je pense, 30 places, puis on avait une vingtaine de personnes, donc je dirais peut-être une 7-8 personnes aveugles,
okay.
pour cette première expérience-là. Puis c'était quand même bien, parce que c'était un beau petit groupe, puis surtout on avait des personnes voyantes et non-voyantes. Pour la première expérience, pour moi, c'était déjà parfait, parce que c'est facile à gérer, puis on peut juste extrapoler ça à plus de personnes, puis améliorer le service. Donc ça a été une belle expérience, aussi une belle collaboration avec l'INIS, au point que l'INIS, maintenant, dans leur cours, dans leur projet, ils en parlent plus de l'inclusion, ils en parlent plus de tout ce qui est sous-titrage, ils sont plus conscients. Ils sont en train déjà d'utiliser l'intelligence artificielle, donc des programmes pour agiliser le sous-titrage,
okay.
pour agiliser la audiodescription dans leur processus créatif,
okay, okay.
et pour que leur étudiant sorte déjà
avec une expertise.
Exact, avec ces outils-là, ils existent, puis on peut les utiliser, on peut les appréter, parce que c'est là aussi partie du processus créatif. Et surtout de ce point
okay.
d'inclusion qui est urgent et nécessaire.
Okay.
Donc, ça fait des belles collaborations. Puis là, cette année, ben, encore une fois, ben, on a encore ces trois maisons-là pour l'édition 2024.
Donc, on parle de
ces trois lieux-là, donc Pointe-aux-Trembles, Maison de la Culture du Plateau Montréal, l'INIS.
L'INIS, OK.
Cette année, oui, l'INIS. Puis cette année, on va inclure la Maison de la Culture de Montréal-Nord,
okay.
aussi dans l'agenda. Pourquoi? Ben parce que j'étais dernièrement dans une rencontre organisée par le FIFA, qui est le festival des films sur l'art
ouais.
de Montréal. Puis, puis c'était à quoi ça sert le festival, non? Donc là, on se rencontrait plusieurs dirigeants des festivals ou de gens du milieu, non?
Okay.
Là, un des points, c'était bon, la centralisation de ce festival-là, donc que ça touche dans le quartier des spectacles.
Okay.
La problématique, c'est que ces salles-là, ça s'inclut dans les salles qui ne sont pas accessibles.
Okay.
Déjà, donc pour ces festivals-là, déjà, n'ont pas les lieux accessibles.
Mm-hmm.
Et pour projeter un film qui précise un besoin de clientèle particulière, une clientèle avec des besoins particuliers, mais c'est beaucoup d'accommodage quand ils sont déjà pleins.
Okay.
Peu importe s'ils font la science ou non, ils sont déjà pleins, ils sont bookés. C'est ça là qu'ils ont choisi parce que c'est là qui se passe la plupart des festivals internationaux, puis que c'est là le happening de l'art. Quoi. Donc il y a cette centralisation là qui vient encore un peu marginaliser ou exclure du public. Donc là, c'est sorti pour moi l'idée de justement de relancer, juste se concentrer encore une fois sur les fameuses boîtes noires des maisons de culture qui sont modulaires.
Okay.
Et donc, de desservir aussi des régions, parce qu'une partie de FICAM, c'était aussi, on veut aller ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a du monde à Sherbrooke, qui est un public sourd, qui font un festival d'art sourd, qui fonctionne très bien.
À Sherbrooke.
À Sherbrooke. Donc, il y a déjà, l'édition passée, le film qui a gagné le meilleur film pour public sourd. Le lendemain, on reçoit une demande d'un organisme au Saguenay. Il nous demande de comment peut-on organiser une production de ce film-là, parce qu'on a du public ici.
Okay.
C'est super belle. C'est la meilleure chose peut-être de
ouais.
festival. C'est ça, là, c'est que ça se fait sonner. Puis là, le film fameux qui a gagné ou qui s'est fait projeter, mais il s'est fait aussi projeter ailleurs, mais il prouve aussi qu'il y a du public pour ça. C'est que nous, comme festival, ben oui, on est le Festival international de cinéma de Montréal qui se déplace partout au Québec.
Okay.
Ben oui. Puis qui fait ce genre de collaboration-là, peut-être avec le festival. Moi, je suis au point que je dis, ben, le festival, peut-être qu'ils veulent faire un partenariat avec FICAM et inclure une section FICAM, puis nous, on apporte l'expertise de comment accueillir une personne aveugle et comment projeter avec ce public-là, puis comment, justement, qu'est-ce qu'on a besoin pour que cette salle soit accessible à 100% ou déjà prévoir qu'est-ce qu'il faut adapter.
Okay.
Donc, c'est des choses qu'en cette année, on s'est mis plus dans ces combats-là parce que c'est comme une... C'est très difficile d'avoir d'espace accessible.
Okay.
Ça, c'est une première barrière
qui nous
bloque dans l'accessibilité, dans l'inclusion.
Fait que c'est ça, il y a un travail de sensibilisation, mais il y a un travail aussi d'expertise que vous développez, que vous pouvez partager.
Évidemment, parce que là, c'est que les autres festivals, ils appellent du nouveau public, le développement du nouveau public. Pour nous, on est déjà dans le nouveau public.
Okay.
Ils n'avaient jamais participé. L'autre jour, j'étais avec des personnes aveugles, puis comme ça, en général, qui est allé au cinéma? C'est nouveau, il n'y a personne.
Okay.
C'est rare. Je l'ai fait une fois dans ma vie.
Ouais. Écoute.
Fait que là, non, c'est ça.
Écoute, Miguel. on a déjà passé beaucoup de temps, il nous reste moins que 3 minutes. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu fais en ce moment, les 4 ou 5 projections prévues là, déjà en cours de projection là, pour l'automne?
Oui, donc on commence à la Maison de la Culture de Montréal-Nord.
À deux minutes.
Oui, le 16 octobre.
Okay.
Le 17 octobre à la Maison de Culture du Plateau-Montréal. Le 18 octobre à la Maison de Culture de Pointe-aux-Trembles. Et le 19 à l'INI, à l'Institut National de l'Image et du Son.
OK. Et donc, si tu peux nous dire quel type de projection, là, chaque date...
Oui, à Montréal-Nord, c'est art et handicap. Au plateau Montréal, c'est les maladies ou handicaps mentaux neuroatypiques.
Okay.
La première année de ce sujet-là.
Okay.
Comme ça, on inclut le spectrum total de la différence capacitaire.
Okay.
Et À la Maison de culture de Pointe-aux-Trembles, c'est amour et handicap.
OK. Un terme plus...
Et à l'INI, oui.
Un terme plus général, si tu veux, plus... plus, je dirais, oui. Symbolique ou un peu... Enfin, oui, excuse-moi, continue.
Oui, non, mais c'est ça. C'est l'amour et handicap, c'est quelque chose de très... On a voulu développer cette session-là à cause de la solitude, okay. Non, qui vivent les personnes avec okay. Okay. Handicap. Fait qu'en parler...
Non, c'est vraiment intéressant.
C'est déjà mettre l'accent sur, non?
OK.
Ce prix-là, c'est remis par la... par l'application Nolou, qui est un partenaire. Et okay. Nolou, c'est une application pour site de rencontre pour les personnes en situation d'handicap. Donc, okay. Si vous avez un handicap, vous pouvez le dire déjà en vérité. C'est, vous pouvez cocher, oui, j'ai un handicap, et voilà mon handicap. C'est pour tout le monde qui a un handicap et qui puisse trouver l'amour. Donc, écoute, la section Amour et Handicap, c'est pour vous. C'est voilà.
Okay.
Et l'INIS, mais qui vous accueille, vous, public aveugle, l'INIS, qui est un peu...
Tu me rappelles la date rapidement, on est presque terminé?
Le 19 octobre.
OK. Donc, parfait. Écoute, je pense qu'on va pouvoir avoir de l'information sur votre site. Et puis, à l'automne prochain, au retour de Mission Vision, je te réinviterai pour qu'on parle plus spécifiquement de ces dates du prochain FICAM qui aura lieu donc au mois d'octobre 2024. Et puis, j'en profiterai pour te réinviter, Miguel, pour nous parler de ces projections qui vont avoir été déjà... Alors, merci beaucoup, Miguel. Merci beaucoup d'avoir écouté Mission Vision et à la prochaine.